Hier, victoire des Golden Knights de Vegas, 6-3 sur les Sharks de San Jose. On a vu une mise en échec douteuse un peu de Joe Thornton face à Thomas Nozek. Et Joe Thornton a été suspendu un match. Pour en parler, direction Vegas de RDS, François Gagnon est avec nous. Salut François.
Salut.
François, satisfait de la suspension d'un match pour Joe Thornton?
Écoute, oui, satisfait. Il fallait que la Ligue impose quelque chose, là. Joe Thornton, c'est pas un joueur salaud. Il n'a pas d'antécédent en même matière. C'est pour moi un des meilleurs fabricants de jeux de l'histoire de la Ligue nationale. Je trouve ça désolant de le voir en fin de carrière comme ça, puis de réaliser qu'il ne soulèvera pas la Coupe Stanley encore cette année, puis il ne soulèvera peut-être jamais. Mais la Ligue avait pas le choix. Là. J'ai beau aimer Joe Thornton, mais il reste que le coup porté à la tête de Thomas Nozek était dangereux, il était inutile, et puis le match, faut dire, a été très... ça a brassé pas mal hier soir, puis même à quelques occasions, on a senti que Thornton avait de la frustration dans son jeu, donc il n'y avait pas de motif pour l'excuser.
Malgré le fait que Vegas mène seulement 2-1 dans cette série face aux Sharks de San Jose, tu as l'impression que les Sharks ne sont pas dans le poste de contrôle pour cette série-là, selon toi, François?
Ah, écoute, ils ont été complètement dominés hier. Écoute, on voit ça une fois de temps en temps, là, un club qui compte dans la première minute d'un match, qui compte dans la première minute d'une période, que ce soit la première, la deuxième, la troisième. Mais hier, ils l'ont fait 3 fois. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. 16 secondes, 21 secondes, puis quoi, 52 secondes? Je veux dire, on a senti hier que les Sharks étaient complètement déstabilisés par la qualité de l'échec avant des Golden Knights. C'est sûr que Gérard Gallant avait le dernier changement, c'était à la maison, mais au niveau de l'intensité, au niveau de tout ce qui fait qu'une équipe met les chances de son côté pour gagner, c'était à l'avantage des Golden Knights hier. En plus de ça, je sais pas si vous avez vu le match, là, mais l'atmosphère au T-Mobile Arena, c'est aussi fou que l'année passée, et ça compte pour beaucoup pour un quatrième trio comme celui de William Carrier, Ryan Reeves et puis Pierre-Édouard Bellemare. Un trio qui a été sensationnel hier soir dans la qualité de son travail. Écoute, c'est quoi? C'est 11 plus 8, 19, 21 mises en échec qui ont été distribuées par ces trois joueurs-là. Puis il y en a deux seulement pour Bellemare. Non, tout ce qui devait bien aller pour Vegas a bien été.
Si on dit que c'est une petite bulle au cerveau pour Joe Thornton, je suis pas convaincu que je peux pas appeler ça une bulle au cerveau aussi pour Evander Kane qui laisse tomber les gants face à Reeves, qui est un spécialiste de ça. Tu sais, t'es important pour ton équipe. Je comprends pas trop le processus dans le cas d'Evander Kane.
Ben, écoute, on est au moins deux dans ce gang-là, là. Surtout que Kane a été frustré tout au long du match. Il a écopé une double mineure au cours de laquelle Pacioretty a marqué le premier but en avantage numérique de son équipe. Où c'était-tu dans le but de Stachny? Je vais laisser celui-là en suspens, là. Il s'est fait frustrer par Marc-André Fleury lors d'une échappée. Et ça, ben, c'était en désavantage numérique pour San Jose. Et Stachny est allé marquer à l'autre bout de la patinoire à ce moment-là. Il y avait beaucoup de frustration dans le camp des Sharks hier soir et ça paraissait. Mais t'as raison, là. Quand Kane jette les gants, d'abord, il met sa santé et sa sécurité en jeu parce que Ryan Reeves est un gars beaucoup plus fort et beaucoup plus aguerri dans ce style-là que lui. Mais ça montre à quel point les Sharks étaient désarçonnés. Puis il faut dire qu'il leur manquait un gros joueur hier, là. Marc-Edouard Vlasic était pas là. Puis ils ont beau avoir Brent Burns puis Eric Karlsson, mais c'est des gars qui sont d'attaque, surtout Karlsson. Puis Karlsson a été lamentable défensivement hier. Donc l'absence de Vlasic a vraiment fait mal à San Jose.
Est-ce qu'on a des détails dans le cas de Vlasic? Est-ce qu'on sait pourquoi il a raté?
Pas en tout. Écoute, si t'en as, j'aimerais ça que tu m'y partages parce que hier, on a parlé beaucoup avec les collègues de San Jose. Ils ont cherché dans le deuxième match un jeu en particulier. Il y a une rondelle qui l'a atteint à la tête sur une rondelle qui a été déviée. Est-ce que ça peut être ça puis qui a été victime de maux de tête ou d'une petite... En fait, il n'y a jamais de petite commotion. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire.
Ouais.
Il y aurait ça, mais il y a rien de déterminé. Aujourd'hui, j'étais à l'entraînement des Golden Knights, puis comme les deux équipes s'entraînent pas à même place, c'est difficile là, d'être à deux places en même temps. Mais demain, jour de match, je vais me diriger du côté du T-Mobile Arena pour voir ce qui va se passer avec Vlasic, pour voir s'il va être de l'entraînement matinal ou si il pourrait rater un deuxième match de suite. Mais certainement que pour que les Sharks reviennent dans cette série-là, ils ont besoin de l'aplomb défensif de Vlasé.
Oui, parce qu'il y a du punch à l'attaque du côté des Golden Knights de Vegas. Regarde là, Pacioretty, Stachny, Stone, 2 buts 4 passes Pacioretty, 2 buts 6 passes pour Stachny, puis 6 buts 2 passes pour Stone. Écoute, c'est sans compter la force offensive qu'on avait déjà. Disons qu'on est capable de marquer des buts là, du côté de Vegas.
Ben, écoute, on fait des blagues, là. Je faisais des blagues aujourd'hui. J'ai eu un long entretien avec Pacioretty. Je suis d'ailleurs en train d'écrire ça là, pour notre site Internet. Merci pour la plug. Puis, dans le fond, tu sais, il y a des clubs qui se disent, bon, on n'a pas de premier trio, mais on a 2 bons deuxièmes. Ben, du côté de Vegas, il y a 2 vrais bons premiers, là. Parce que tu regardes le match d'hier, le trio de Marchessault avec Riley Smith et Carlson, ça n'a pas donné de résultat. William Carlson et non Eric, là, ça n'a pas donné de résultat. En fait, ils n'ont pas eu besoin de donner des résultats parce que le trio de Stachny avec Pacioretty et Stone s'est chargé de la production offensive. Demain, ça va peut-être être le contraire. Parce que demain, comme l'a dit Peter DeBoer, l'entraîneur-chef des Sharks après le match hier, écoute, ce trio-là nous mange tout rond depuis le début de la série. Les statistiques que tu as données tantôt le démontrent avec éloquence. Alors, s'il accorde une importance plus grande à Stone, Pacioretty et Stachny, ce qu'il faudrait qu'il fasse, ben ça va ouvrir la porte à Marchessault et sa gang, là. Et c'est ça qui est la beauté des Golden Knights de Las Vegas et la beauté des transactions qui ont été conclues par George McPhee au cours de la saison, puis particulièrement à la date limite pour mettre la main sur Stone. Tu regardes les Blue Jackets de Columbus, ils ont été, all-in à la date limite des transactions, même que plusieurs, moi le premier, ont trouvé qu'ils avaient joué gros. Mais là, c'est en train de rapporter. Et c'est la même chose du côté de George McPhee et des Golden Knights.
En terminant sur cette série entre les Sharks et Vegas, tu en as parlé rapidement tout à l'heure. C'est toujours la même ambiance. C'est survolté à Vegas. On y croit encore. C'est encore quelque chose de spécial?
Je sais pas si on peut dire spécial parce que là, c'est la deuxième année. Mais je vais te dire une chose. On s'habitue au plaisir de venir assister à des parties de hockey ici. Là. Le party commence 2h30, 3h dehors. Faut dire qu'il fait 80 degrés, que c'est le beau soleil, les terrasses sont ouvertes, c'est des circonstances qui sont plus favorables. L'équipe gagne, donc c'est évident que depuis 2 ans, c'est le club Cendrillon ici, là. Mais tu sens que les gens de Las Vegas sont derrière leur équipe complètement. On verra si, à un moment donné, il y a une baisse de régime au niveau de la formation, à quel point l'intensité de cette partisanerie-là sera maintenue ou si elle va diminuer. Alors, remarque qu'elle diminue partout, là. Des sièges vides aux Alouettes, puis à l'Impact quand ils perdent, puis même aux Canadiens la saison dernière, on en voit. Donc, c'est pas... je souhaite pas ça aux Golden Knights, mais si ça arrive ailleurs, ça pourrait arriver ici aussi. Mais pour le moment... C'est vraiment le party en ville. Puis Dieu sait que c'est une ville de party, puis que c'est pas le choix qui manque, là. Mais le hockey pour les gens d'ici, là, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ose peut-être pas dire essentiel encore, là, mais c'est clair que les Golden Knights ne jouent pas à Las Vegas dans l'anonymat, mais alors là, pas du tout.
Prenons quelques instants, si tu veux bien, François, pour parler d'Alain Vigneault, qui a été nommé officiellement comme entraîneur chez les Flyers de Philadelphie. On a vu Joel Quenneville aller du côté de la Floride. On espère des changements. Crois-tu que Vigneault peut faire ça avec les Flyers de Philadelphie?
Oui. Je crois que Vigneault peut faire ça. Vigneault, comme Joel Quenneville, puis d'autres là, dans la Ligue nationale, Claude Julien en est un aussi, des entraîneurs de carrière, des gars d'expérience, des gars qui sont méticuleux dans leur planification, peut-être des fois trop un peu, des gars qui laissent pas beaucoup de place aux émotions. C'est des gars qui travaillent. C'est des gars qui établissent, qui vont redonner de l'ordre à une organisation qui en a besoin. C'est le cas en Floride, où c'est le free-for-all depuis trop d'années, et Quenneville va faire, j'en suis sûr, des Panthers, un club qui va être à prendre sérieusement en considération pour les séries l'an prochain. C'est sûr que si tu lui donnes un gardien de premier plan comme gardien numéro 1, ça va l'aider. Mais déjà là, il va amener quelque chose que Bob Boughner n'amenait pas depuis 2 ans du côté de la Floride. Alain Vigneault, ça va être la même chose à Philadelphie. Bon, on a vu Carter Hart arriver, puis c'est venu aider la cause des Flyers devant le filet, là. Ils ont quand même mis quoi, 8 ou 9 gardiens cette année. Il n'y a pas un club qui peut survivre à une affaire comme celle-là. Mais là aussi, il va amener une meilleure structure. J'aurais aimé ça voir Vigneault en Floride. Je pensais que c'était un bon club pour lui. Mm-hmm. J'aurais aimé ça voir Vigneault à Saint-Louis aussi, parce que c'est le club qui l'a repêché quand il est sorti des rangs juniors. Mais quand tu regardes ce que les Blues font en ce moment, on va se le dire, là, Craig Berube est en train de mettre la main sur le job d'entraîneur-chef. Son intérim, il l'a réussi avec mention plus qu'honorable. Donc, j'ai l'impression qu'il va garder ce poste-là, surtout si les Blues sont capables de sortir les Jets en première ronde.
Moi, je te dirais, pour le bien de la Ligue nationale de hockey, puis pour le respect du talent qu'il y a dans cette Ligue-là, moi, j'aurais aimé voir Alain Vigneault avec les Oilers d'Edmonton. Donner de la structure, faire quelque chose à ce club-là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à un moment donné, il y a tellement de talent là-dedans. Il faut que ce club-là gagne un moment donné.
Il n'y a pas tellement de talent là-bas.
Ben, il y a du punch à l'attaque.
Il n'y en a pas tant que ça. Il y a un joueur qui est le meilleur de la Ligue nationale.
Draisaitl.
Le plus talentueux et tout. Draisaitl, là, il a récolté ses points puis il a marqué ses buts quand on l'a intégré au trio de McDavid. Parce que quand on a donné le mandat à Draisaitl de faire fonctionner un trio à lui tout seul, ça n'a pas marché, son affaire. Alors, Draisaitl a du talent, là. Je ne suis pas en train de te dire que c'est un plombier. C'est un joueur il n'est pas au niveau de McDavid. Mais c'est un bon joueur de hockey, mais qui n'a pas rendu les autres autour de lui meilleurs, alors que McDavid est capable de rendre des gars de troisième ordre des joueurs de premier plan quand il évolue avec lui. Ça, c'est la grosse différence. Mais moi, est-ce que je peux me considérer comme un ami d'Alain Vigneault? J'irai pas jusque-là parce que je veux pas y mettre des mots dans la bouche, là, mais je le connais depuis longtemps, depuis qu'il dirigeait les Olympiques de Hull à cette époque-là, depuis qu'il a dirigé comme adjoint les Sénateurs d'Ottawa, évidemment le Canadien aussi. Je suis pas sûr que je souhaiterais à quelqu'un que je connais et à qui je veux du bien d'aller diriger à Edmonton tant et aussi longtemps que la structure hockey sera pas mieux, je te dirais, définie. C'est encore un boys club là-bas. Il y a encore trop de monde qui... Tu sais, Wayne Gretzky, je suis un admirateur de Wayne Gretzky, mais t'as Gretzky qui est là, t'as Kevin Lowe qui est là, t'as plein de monde qui gravite autour de l'équipe et j'ai l'impression que celui qui va hériter de la job là-bas devra imposer un ménage pour dire, garde, là, on fait une coupure avec le passé. Les belles histoires, c'est beau, c'est des beaux souvenirs, mais le présent est tellement mauvais qu'on doit mettre ça de côté là, puis dire, on repart vraiment à zéro pour donner enfin une vraie équipe aux partisans des Oilers.
Dallas Eakins a essayé de faire ça, mais disons que ça n'a pas beaucoup fonctionné. Je veux qu'on prenne, en terminant, François, écoute, je sais que tu es un fan de golf. Est-ce que tu as pris le temps de regarder Tiger remporter son 5e tournoi majeur? As-tu des frissons comme l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs qui étaient à l'écran pour regarder Tiger gagner?
Oui, j'en ai eu certains. Écoute, hier, j'ai fait le voyage entre Montréal et Las Vegas. Donc, je suis parti. Montréal était à quoi? 7h30, je pense, mon vol pour Toronto. À Toronto, j'ai pu voir le début de la retransmission de la dernière ronde. Ça commençait à 9h. Mais après ça, mon envolé, je l'ai tout manqué. Quand je me suis posé ici à Vegas hier, j'ai fermé le cellulaire, pas allé voir Twitter. Chaque fois que j'entendais du monde parler autour, je virais de bord, je voulais rien savoir. Je suis rentré comme une marmotte dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert la télé, et puis j'ai repris la diffusion, là, si tu veux, en différé. Alors, j'avais aucune idée qui avait gagné, et j'ai pu suivre le deuxième neuf, le neuf de retour de Tiger puis des autres, là. Écoute, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est exceptionnel. On peut pas dire incroyable parce qu'il l'a fait, mais c'est exceptionnel. Le retour de Tiger Woods, gagner un tournoi majeur avec tous les problèmes qu'il a connus, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau physique avec les opérations, que ce soit le simple fait qu'il a vieilli puis qu'autour de lui, il y en a plus que jamais des jeunes joueurs qui sont bons, aussi bons que lui n'importe quelle semaine donnée, puis qui peuvent gagner ces tournois-là. Alors, j'en reviens tout simplement pas. J'étais, comme tout le monde, impressionné. Et oui, j'ai trouvé ça magnifique, les images, de voir son premier tournoi des maîtres quand il enlace son père, puis de voir qu'hier, le Tiger qui avait moins de cheveux en dessous de la casquette, c'est dans les bras de ses enfants puis de sa mère qui a sauté. Là. Tu vois à quel point il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre la première victoire puis la cinquième. Alors, oui, je suis un fan de golf, oui, je suis un fan de Tiger, mais ça, hier, là, c'était... Tu n'as pas besoin d'être un fan de golf puis un fan de Tiger Woods pour apprécier ça. Tu as besoin d'être un fan de sport purement et simplement, parce que c'est un des grands moments dans le sport que Tiger Woods a marqué hier.
Ah, ce fut fort agréable. François Gagnon, je te dis un gros merci, puis évidemment, on lit tes reportages sur le RDS.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut, bonne soirée.
Voilà, c'était François Gagnon qui nous parlait en direct de Las Vegas. C'est déjà tout pour nous à Bonsoir les sportifs. Gros merci à Geoffroy Morin à la mise en onde. Restez là, au retour, c'est Sylvain Ménard qui s'amène pour Fabi la nuit. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne nuit à notre antenne.